Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Soyez les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur. Je pensais en chantant tous ceux qui ont appris deux langues étrangères, l'anglais et le français, peuvent ensuite donc chanter avec nous. Mais tout le reste, tous les autres connaissent, n'est-ce pas, les mêmes cantiques dans leur langue natale et peuvent aussi chanter. Ce que la chorale a chanté, Amazing Grace, était l'un des cantiques les plus aimés de Frère Branham. Tout est grâce. Et encore une fois, que grâce. Et ensuite, le cantique bientôt apparaîtra ce jour. Ce jour est vraiment très, très proche. Très bientôt. Seulement, donc très rapidement, seulement les salutations et ensuite nous viendrons à la parole. Salutations de l'Ukraine, Belarus de la Russie, de Moscou, de l'Oural, de Krasnodar. Des salutations particulières du frère Wallström de la Danemark, le frère Lotika de l'Afrique du Sud, le frère Daniel de Kapstadt, le frère Motika de Johannesburg, le frère Mbie du Congo, ensuite le frère Gonga et le frère Joseph de Kinshasa, et ensuite le frère Genton et de nos frères et sœurs de l'Arménie, le frère Graf, salut, le frère Jürgen de l'Afrique du Sud, salut, particulièrement le frère Mwamba de Kolwezi. Là, en ce moment, Dieu fait les choses les plus glorieuses. Ce ne sont pas seulement 3000 personnes qui maintenant sont en ligne, sous des, donc en face de beaucoup d'écrans, mais toute la ville est inclue et écoute en direct nos réunions en ligne sur une surface de 100 kilomètres, ce qui est prêché ici. C'est ainsi que cela avait été mis sur le cœur de notre frère là-bas, et c'est ainsi que, de la part de Dieu, ainsi, et cela a pu réussir. Ensuite, des salutations du Congo encore, du frère Funda, des salutations du frère Gratien, de Ashdod, Israël. Ça, nous le savons tous. Salutations du frère Steve, pardon, aussi de Bukavu, de la République du Congo, et ensuite du frère Kirill. Il salue fraternellement le frère Christian de la Roumanie, remet ses salutations. Le frère Sumba, Aaron de Johannesburg, salue fraternellement. Encore un frère, notre frère Andrian de la Roumanie, salue aussi fraternellement. Le frère Vince de l'Hongrie, salue particulièrement. Encore un frère de l'Hongrie, le frère Kézes et le frère Young de Donve, Colorado, le frère Pino Davi de Palermo, le frère Mbie du Congo, le frère Cecil de l'Afrique du Sud, salut avec le psaume 19, verset 14, le frère de Bombaza du Kenya, le frère John de Bucarest, salut fraternellement, des frères du Burundi, des salutations du Burundi, des salutations du frère Yapi d'Abidjan, des salutations du frère Clout de Cape Town. Il a rendu un témoignage merveilleux de ce que Dieu a fait. C'est simplement merveilleux. Je ne sais pas si aujourd'hui j'ai fait attention à ne pas oublier un mail. Je l'espère au moins, je l'espère. Au cas où quelqu'un aurait été oublié, cela n'a pas eu lieu avec esprit. Tous attendent de moi que je dise quelque chose, mais nous ne sommes pas ici pour que de moi je dise quelque chose. Nous sommes ici pour écouter la parole du Seigneur. Mais je voudrais quand même, particulièrement, c'était le souhait du frère Ziegler, la parole de Philippe. Philippe, le premier chapitre. Philippe, le premier chapitre. Il est écrit ici ce qui aussi me concerne. Philippe, le premier chapitre, ici nous lisons à partir du verset 20. Philippiens, chapitre 1, verset 20. Philippiens. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Paul a laissé ouvert, a laissé comme ça, Dieu décider. Encore le verset 21, car Christ est ma vie et la mort met un gain. Je crois que nous pouvons tous dire amen à cela. Christ est notre vie. Mais qu'est-ce qui nous retient encore sur cette terre? Que nous soyons jeunes ou bien âgés, adultes, nous voulons tous déjà être transformés et être enlevés. Mais maintenant, suit les versets qui ont un contenu fort, le verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Frère Paul a parlé très sobre et a écrit de manière très sobre. Ensuite, verset 23, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais pour moi, seulement serait le meilleur. Mais qu'est-ce qui pourrait encore m'arriver de mieux que ça, que d'être avec Christ, que le Seigneur m'aurait repris, ou bien alors me reprenne, comme Paul ici le dit, ce serait de beaucoup le meilleur, qui de beaucoup est le meilleur. En allemand, c'est plus clair. Ici, verset 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Mais à cause de vous, vous qui avez cru, vous qui avez expérimenté la grâce de Dieu et qui avez part au ministère que Dieu, par sa grâce, a accordé pour vous, à cause de vous, vous les croyants. Il est ainsi que Paul le dit ici, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Il est plus nécessaire que je demeure dans la chair à cause de vous. C'était nécessaire. Ensuite, le verset 25. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Oui, que Dieu l'accorde. Que Dieu l'accorde, me l'accorde, nous l'accorde à tous, nous qui sommes ici, à nous tous qui sommes ici rassemblés ce soir, et à tous ceux qui sont en ligne dans le monde entier et qui écoutent, et peut-être encore voient. Afin, verset 26, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons dire là-dessus? Aussi ce que Paul autrefois a enduré corporellement, qui devait même dire dans Galates chapitre 4, il dit, mon état corporel a été en beaucoup de personnes comme ça, un scandale ou bien, mais Dieu a accordé sa grâce. Dieu a accordé sa grâce. C'est, tout va bien par la grâce de Dieu. Dieu m'a accordé la grâce et j'ai quitté l'hôpital avec les meilleurs résultats et tout va bien par la grâce de Dieu. À Dieu, le Dieu Tout-Puissant, fidèle, soit l'honneur, la gloire. Comme je le disais déjà la dernière fois à Zurich, dimanche, j'ai perdu 10 kilos et j'ai vieilli de 10 ans. Mais par la grâce de Dieu, la vie continue tant que le Seigneur veut l'avoir, et comme Paul ici l'a exprimé, que je puisse, donc c'est à cause de vous si je reste dans la chair, c'est plus nécessaire. Ainsi, nous mettons notre confiance dans le Seigneur, il fera toutes choses bien comme jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, bien-aimés frères et sœurs, une toute petite remarque, particulièrement pour nos traducteurs. Nous avons de grands problèmes avec les traductions de la Bible dans les différentes langues, parce qu'il y a des mots et des paroles qui ont été redonnés différemment. Et si, par exemple, nos frères traduisent de l'allemand dans leur langue, alors parfois, ils ont des problèmes parce qu'ils retrouvent d'autres mots dans leur Bible, de leur langue. Je vous donne trois exemples. Et cela, pour les traducteurs et pour tous qui, quelque part, sur terre, suivent. Matthieu 24, verset 3, où il est écrit, et quel est le signe de ton retour? Ici, il est écrit dans la Bible allemande, le mot « retour » et cela existe dans aucune autre traduction. Dans aucune autre traduction, c'est seulement écrit en allemand « retour ». Jusqu'à 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, verset 4. Où est la promesse de son retour? Donc, 14 fois dans la Bible allemande, le mot retour existe. Je crois qu'en français, c'est bien aussi avènement. Avènement, hein? Mais dans d'autres traductions, il est dit carrément venu, sa venue. Et donc, nos traducteurs ont des problèmes. Ici, en français, ça va, avènement, ça veut dire aussi retour. Mais il y a des traductions où il est écrit simplement venu. Mais là, il y a un problème parce qu'il y a plusieurs venues du Seigneur, mais qu'un seul avènement, qu'un seul retour, mais il y a plusieurs venues. Donc, quand, en ce qui concerne son retour, il est bienvenu, c'est un problème. Quand il s'agit de l'avènement, donc du retour du Seigneur, il faut comprendre qu'ici, il est question de son retour, de son avènement. Et dans notre langue, on doit donc choisir ce mot, quoique dans la Bible, dans la langue, cela n'est pas comme ça. On doit pouvoir le faire. Dans la prédication de frère Branham, la parole parlée du 18 mai 1962, frère Branham disait, il y a trois venues de Christ. Il vint pour racheter son épouse. Il vient dans l'enlèvement pour prendre son épouse auprès de lui. Et dans le millénium, il vient de nouveau avec son épouse. Il revient avec son épouse. Donc, il y a trois venues en relation avec le plan de la rédemption de notre Dieu. Le Seigneur vint pour nous racheter. Il vient pour prendre auprès de lui les rachetés dans l'enlèvement. Et ensuite, il revient avec nous de nouveau pour établir le règne de 1000 ans. Mais maintenant, encore la chose suivante. Et je ne le dis pas pour blesser quelqu'un, mais aujourd'hui, j'ai ici avec moi deux Bibles. La Bible anglaise, le King James, qui a été travaillée par Scofield, que frère Branham lisait. J'ai ici la Bible allemande, Luther, la Bible Luther, aussi traduite par Scofield de la même manière aussi. Et ici, il y a malgré tout deux différents textes, quoique ce soit le même traducteur. Je vous donne deux, trois versets. Éphésiens, le chapitre 3, versets 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible anglaise. En allemand, de ce mot famille, les hommes de la Trinité ont fait leur dogme. Comme quoi, au ciel, il y a deux, trois personnes duquel tire son nom toute famille. Duquel est nommée toute famille. Ici, ce n'est pas écrit famille, mais paternité, car Dieu est notre Père. Donc, de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute paternité dans les cieux et sur la terre. Ici, le mot famille ne doit pas exister. Et si les frères ont un problème dans la traduction, ou bien alors si ceux qui écoutent ont un problème, bien mes frères et sœurs, je vous le lis de l'Internet. Martin Luther avait le texte latin. Il a rejeté la traduction catholique, il ne l'a pas utilisé. Il est reparti au texte hébreu, Martin Luther. Et c'est du texte original, primitif qu'il a traduit. Martin Luther a rejeté le texte latin catholique. Avec la réformation de Martin Luther, ça c'est un texte que j'ai sorti de l'Internet, dans le 16e siècle, et par lequel la traduction a eu lieu comme aucune autre traduction, avec le texte Vulgata. Mais il s'est saisi du texte original. C'est ainsi que le Vulgata a commencé, et le mouvement protestant a rejeté le Vulgata à cause de leurs différences. Qu'est-ce que nous devrions dire là-dessus? Je dis seulement la chose suivante. Chacun peut lire dans sa Bible et être sauvé. Mais quand il s'agit de l'exactitude, vraiment de l'exactitude, et là, nous sommes déjà dans Jean 5, ici dans la Bible anglaise, 1 Jean 5, il y en a trois qui rentrent témoignage au ciel. La parole, l'eau et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Cela était écrit ainsi dans la Bible de Frère Branham. Cela est écrit ici dans... Et dans cette Bible, ce texte n'existe même pas. Ce verset n'existe même pas, imaginez-vous. Et dans le texte original non plus. Et dans cette Bible, il est écrit comme comparaison en bas que ce verset dans l'original n'existe pas. Il a été ajouté à la Bible. C'est plus tard qu'il a été ajouté. Ce verset n'existe pas. Il y en a trois qui rendent témoignage. Ce texte n'existe même pas dans la Bible originale. Et je le dis à cause des traducteurs et à cause de ceux qui écoutent les traductions. Nous devons revenir au mot original. Et la troisième chose, c'est dans Apocalypse chapitre 10. Dans la Bible anglaise, il est dit... Il n'y aura plus de temps dans la Bible anglaise. Et ici, il est dit, et il n'y aura plus de temps. Alors, il n'y aura plus d'interruption. Il n'y aura plus d'interruption. Donc, les choses s'accompliront. Car le temps sera encore dans le millénium, jusqu'à la fin du millénium. Donc, quand il est dit, il n'y aura plus de temps, ça veut dire que il n'y aura plus de délai. Les choses vont maintenant s'accomplir. Ce n'est pas dans le sens que le temps sera aboli, car le temps existera encore dans le millénium. C'est important d'être attentif et justement de tels versets-là, de les comparer justement avec d'autres écritures pour qu'il y ait une harmonie parfaite. J'espère que tous ont compris et j'espère aussi que dans toutes les langues, tous comprennent. Si, par exemple, ici, dans notre langue, la parole est prêchée en allemand et que dans d'autres langues, il est traduit, que Dieu accorde sa grâce au traducteur pour que tout soit bien compris. Bien-aimés frères et sœurs, c'est dans Apocalypse 10, verset 6. En français, c'est bon, il n'y aura plus de délai. Nous avons entendu parler de ce jour. Il n'y aura plus de délai. Apocalypse 10, verset 6, en français, c'est correct. Nous vivons maintenant dans le temps de la grâce encore. Et le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Et il sera le couronnement de l'achèvement de l'œuvre. Et nous avons la grâce de prendre part à ça. D'être présent quand cela aura lieu, quand le Seigneur prendra les siens auprès de lui. Pensons à la parole du premier week-end dernier que nous avons observé ici. Comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 4, que d'entre nous, personne ne paraisse ne pas avoir atteint le but. Dans Hébreux, le chapitre 10, nous avons ici au verset 37, Hébreux 10, verset 37, encore les choses importantes qui sont dites. Hébreux 10, verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et il ne tardera pas. Quand est-ce que cette parole, avec une telle assurance, aurait pu être dite et écrite que maintenant? Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Un temps très peu, très court. Ensuite, celui qui doit venir viendra. La parole est écrite aujourd'hui pour nous qui vivons maintenant. Ça, c'est la chose merveilleuse dans les Saintes Écritures. Que tout est écrit et reste valable jusqu'à la fin. Il faut seulement que les versets et adéquats soient trouvés et qu'ils soient révélés pour que nous puissions reconnaître ce qui et concerne notre temps. Encore un peu de temps. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur dans sa parole. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Une telle parole nous touche le cœur. Et particulièrement alors que je voyais tous les jeunes, cette pensée m'est venue que Dieu puisse accorder sa grâce, que tous consacrent leur vie au Seigneur, jeunes ou adultes, grands ou petits, que tous nous puissions recevoir le Seigneur et comme l'avons aussi chanté dans le cantique, le pardon des péchés, que nous puissions l'avoir reçu personnellement. Vous pouvez le lire. Notre Seigneur et Rédempteur, comme agneau de Dieu, est mort. 34 fois, il est désigné comme agneau. 34 fois, Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui enlève, qui porte. En tant qu'agneau, il est mort. Comme agneau, il a donné sa vie, il a donné son sang pour nous. Mais comme souverain sacrificateur, avec son propre sang, il est entré dans le sanctuaire céleste et il a accompli la rédemption éternelle pour la documenter au ciel. Elle a été accomplie sur terre, mais documentée au ciel, valable au ciel, telle qu'elle a eu lieu sur terre. C'est ainsi que nous le voyons aussi en tant que médiateur de la nouvelle alliance. En tant que médiateur de la nouvelle alliance. Et nous le voyons de nouveau en tant que avocat. Et tout cela en relation avec le dessein du salut de notre Dieu. Le Seigneur a un certain ordre dans le dessein du salut selon le déroulement des choses. Et nous avons, bien aimés frères et sœurs, ici, eu déjà plusieurs fois parlé de ces choses, observé ces choses. Plus de 170 fois, notre Seigneur, en tant que fils de l'homme, plus de 70 fois dans les quatre évangiles, notre Seigneur est décrit comme fils de l'homme. Le fils de l'homme. Toujours le fils de l'homme. De Romains chapitre 1 jusqu'à l'épître de Jude, le dernier verset, pas une unique fois de Romains 1, on retrouve l'expression « fils de l'homme », mais toujours « fils de Dieu » dans tous les épîtres. Fils de Dieu en relation avec l'Église rachetée, en relation avec tous les fils et les fils et les filles de Dieu. Fils de l'homme. Dans la partie prophétique, en tant que prophète, il était le fils de l'homme. Tout a sa place. Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de David, Fils d'Abraham, tout a sa place dans tout le dessein du salut, dans toute l'histoire du dessein du salut, dans toute l'histoire du salut. Et ce qui me touche aujourd'hui particulièrement, j'ai déjà les larmes que j'ai essuyées. Quand on lit de tels versets, encore un peu de temps. Il y a très peu de temps qui nous reste. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Celui qui a donné la promesse ne tardera pas, il viendra. Repartons à Matthieu, le chapitre 25, verset 10. Celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces de l'agneau et les portes furent fermées. Je vous dis très sincèrement, je n'ai même pas osé continuer à lire, car il est parlé des vierges folles qui vinrent. Ce n'étaient pas des incroyants, ce n'étaient pas des athéistes, elles étaient vierges, qu'elles avaient entendu l'appel. Voici l'époux, elles avaient entendu cet appel. Mais il est écrit qu'elles sont venues trop tard. Pas seulement trop tard, mais trop tard. Oui, pas seulement tard, elles sont venues tard. Pas seulement tard, pas seulement plus tard, mais trop tard. Elles sont venues plus tard, mais pas seulement plus tard, mais trop tard. Le Seigneur a dit, je ne vous connais pas. Cela fait mal au cœur. Cela fait mal au cœur. De ce que je dois dire, bien mes frères et sœurs, nous voulons mettre tous nos efforts à croire Dieu, à croire la parole, à mettre notre vie en ordre, à nous mettre à la disposition du Seigneur et qu'il n'y ait rien de condamnable qui soit dans notre conduite et à nous et que nous ne soyons pas des folles, mais des vierges sages. Peut-être que il y en a qui croiront ou bien qui ne croiront pas ce qui est écrit dans la Bible. Non, les vrais rachetés, les vraies vierges qui seront prêtes restent dans la parole, dans la grâce, dans l'amour, restent liés avec Dieu et la parole de Dieu reste notre lampe à notre sentier. Le frère Branham, et j'espère que je vais trouver cela, il a parlé de ça. Comment est-ce que l'adversaire chez Ève a pris seulement qu'une seule parole? Une seule parole. Et ensuite, il a mis cela en point d'interrogation. Il a mis cela en question. Est-ce que Dieu a dit, vous ne mourrez pas, vous serez intelligent, vous aurez la connaissance, vous serez comme Dieu, vous serez comme Dieu, vous serez, vous serez. Et ensuite, il a remis la parole en question. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était la tromperie, la séduction. Parce que Ève avait prêté, avait permis un entretien. Elle a prêté l'oreille. Et qu'est-ce qu'il y a à discuter sur ce que Dieu a dit? Dites-moi, il n'y a pas à discuter. Vous savez à quoi est-ce que je suis venu comme décision? À partir de maintenant, je ne vais entretenir aucun entretien privé. Je vais répondre à aucune question au téléphone, et particulièrement quand ce sont des choses privées. Et sur la parole de Dieu, il n'y a rien à discuter. La parole de Dieu doit être crue, telle qu'elle est écrite, telle qu'elle est écrite. Dans la prédication, la colonne de feu du 9 mai 53, frère Branham dit, Seigneur, pour nous ce serait un péché de douter ta parole. Dites Amen. La parole de Dieu est digne qu'on la croit comme Dieu est digne d'être cru. Nous croyons comme le dit les Écritures. Je le répète, Seigneur, ce serait un péché de ne pas croire ta parole, de la douter. Aide-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés de l'incrédulité. Qui est le seul et unique péché original, l'incrédulité. D'abord le doute est semé en ce que Dieu a dit dans sa parole. Le résultat, c'est l'incrédulité. Et ensuite, comme suite, c'est la transgression, la séparation d'avec Dieu pour toujours, pour toujours. Ensuite, frère Branham dit, dans la deuxième citation, dans la prédication, toutes choses sont possibles du 22 juin
1956.
Laissez-moi vous montrer dans la parole. Alors que le diable vint à Jésus-Christ pour la première fois et le rencontrèrent, il douta en lui, tous nous savons. Il a dit, es-tu, il douta en lui, es-tu, si tu es. Et frère Branham continue ici et dit, il n'y a pas un autre péché que, que l'incrédulité, que de ne pas croire, qui est de l'incrédulité. C'est le seul péché original. Celui qui ne croit pas, Dieu rend Dieu menteur. Qu'est-ce que nous voulons nous tenir devant Dieu si nous ne croyons pas ce que Dieu a dit dans sa parole et tel qu'il a dit et ce qu'il a dit? Tout le reste, ce sont des transgressions alors qui suivent. Le mentir, voler, commettre adultère. Tout cela, en fait, c'est parce qu'on est incrédule, c'est parce qu'on ne croit pas. Ça, c'est le résultat du péché qui est l'incrédulité. Et frère Branham dit, le péché original était alors que Ève s'est laissée emporter dans un entretien et le doute a été semé dans son cœur. Elle a prêté l'oreille à ce que l'adversaire donc lui a dit. Bien-aimés frères et sœurs, repartons d'église en église, de confession en confession. Tous ont leur séminaire de prédicateurs, tous ont leurs écoles bibliques de la Bible, tous ont leur formation de pasteur. Et partout, la parole est interprétée et encore une fois interprétée. La parole de Dieu doit être restée, laissée et écoutée dans sa forme originale et être crue ainsi. Dites-moi, de quel sujet nous devrions ici discuter? Dites-moi. Je ne sais pas. De quel sujet nous devrions ici discuter? Dites-moi. Je n'ai aucun sujet et il n'y a aucun sujet à discuter. Je ne vais pas en chercher et je n'entre. Car je n'en ai pas. Ensuite, du 8 février 1958, citation, une prédication. Il y a beaucoup d'œuvres que le Seigneur ne pouvait pas faire à cause de leur incrédulité. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur ne pouvait pas faire à cause de leur incrédulité. Vous savez que c'est le péché original, l'incrédulité. Et c'est vraiment le seul péché. Matthieu 13, il est écrit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose parce que les gens ne le croyaient pas. Et dans Exode 4, Dieu a parlé avec Moïse et lui a dit, je te donne deux signes. S'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront. Au premier signe, croyons au deuxième. Matthieu 13, verset 58. Matthieu 13, si le plus grand des prophètes est envoyé et qu'on ne le croit pas, et qu'on ne croit pas que Dieu l'a envoyé et qu'il l'a prêché sous un mandat divin, alors la parole est prêchée, mais elle ne les atteint pas parce qu'ils ne croient pas. Et aussi, en ce qui concerne le mandat, par exemple, comme c'était avec Moïse, c'était comme ça aussi avec frère Branham. Deux signes, deux seront donnés. L'un des signes était que frère Branham prenait la main du patient et il devait la tourner ici, le cancer, par exemple, la tumeur, la maladie, quoi que la personne avait pour laquelle il devait prier. Exode 4, verset 8. Et la maladie était reflétée sur sa paume, la paume de sa main. Et il disait au patient de ne pas fermer les yeux, mais de garder les yeux fermés, ouverts. Parce qu'au moment où sa guérison avait eu lieu, le cancer, la tumeur, le reflet de sa maladie sur la main disparaissait. Et cela, plus de 1000 fois, des milliers de fois, cela a eu lieu. Et frère et sœur Linzel, que je connaissais personnellement, ont rendu ce témoignage. Qu'est-ce que c'était? L'ange éternel disait, si tu réussis à ce que les hommes te croient, pourquoi est-ce que le Seigneur dans Marc 16, au verset 17, a dit, à ceux qui croient, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, verset 17. Bien, frères et sœurs, croire, c'est un don de Dieu. Abraham croyait Dieu. Abraham croyait Dieu. Il croyait les promesses. Il voyait la promesse s'accomplir. Encore une citation du 10 janvier 1960. Encore un sujet semblable. La reine de Séba. Citation. Il n'y a qu'un seul péché original, c'est l'incrédulité. L'Écriture dit, celui qui ne croit pas sera condamné. Marc 16, verset 16. Celui qui ne croit pas sera condamné. Disons encore une fois, la foi vient de la prédication. De ce qu'on entend, et la prédication vient de la parole de Dieu. Et celui qui, dans une bonne disposition, écoute la parole et sait que, est conscient que c'est Dieu maintenant qui parle avec lui, que ce n'est pas Paul ou bien un frère ou bien un homme, mais que c'est Dieu qui, par sa parole, parle avec nous. Finissons avec ce sujet. Il s'agit vraiment de croire Dieu, de croire les promesses, de croire chaque parole, sans considérer les circonstances. Tout ce que Dieu a dit reste éternellement vrai. Et ça, nous le croyons de tout notre cœur. Dans Jean le chapitre 4, et 8, au verset 24, il est encore écrit cette parole. Si vous ne croyez pas, si vous croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Il n'y a pas un chemin qui se détournerait de lui. La foi en lui seul sauve. Hier, j'ai lu un article assez long qui m'a empêché de dormir. L'un des plus grands personnages du mouvement protestant ici dans le pays. Comment est-ce que l'Église catholique a été louée, etc. Et il dit par exemple combien le Seigneur n'a jamais dit combien, quel âge doit avoir la personne qui se laisse baptiser, etc. Le Seigneur n'a jamais dit. Mais si, le Seigneur a dit que d'abord l'évangile doit être prêché, même s'il n'a pas dit l'âge de celui qui se laisse baptiser, mais il a dit que l'évangile doit être prêché. Il a dit d'abord que la personne doit être en âge de se repentir et de croire au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Il n'a pas donné un âge, mais il a dit, voilà, ceux qui doivent se laisser baptiser. Il a dit aussi que tous ceux qui ont reçu sa parole se laissèrent baptiser. Ça, tout est déjà ferme dans la Bible. Le monde entier continue à être menti comme ça et est égaré. Ils ne s'attachent pas aux Écritures, ils sont dans leur raisonnement. Et comme jamais auparavant, hier, en lisant cet article, j'aurais préféré écrire à une telle personne qui raconte de telles histoires que oui, ça n'a pas d'importance. Le Seigneur n'a jamais dit l'âge de ceux qui doivent se laisser baptiser. Il parle de sacrements. Il parle de 7 sacrements. Jusqu'à maintenant, aucun sacrement a sauvé qui que ce soit. Et une église non plus. Crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que tu seras sauvé, toi et ta maison. Tout le reste, c'est que des vains discours et qui ne ramènent pas à Dieu. Alors, ça ne sert à rien qu'un homme déclare sauvé ou bien béatifie qui que ce soit. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe en moi quand je lis de tels articles du temps, en ce moment. Les six religions les plus grandes, que ce soit le catholicisme, l'hindouisme, le judaïsme, etc., tous sont en train de s'entretenir. Tous les six grandes religions cherchent l'union. Nous sommes à la fin. Nous sommes rapprochés très de la fin. Et celui que tu regardes, par exemple, en Orient aussi, les vallées, les montagnes de Golan, en Israël, il remarque aussi que nous sommes vraiment à la fin du temps de la fin, quand il remarque tout ce qui se passe là-bas. Et quand ensuite Pierre, ici, dans 2 Pierre, chapitre 1, écrit 2 Pierre, chapitre 1, verset 16, 2 Pierre chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu. Jean, le Baptiste, était témoin oculaire. Celui qui m'a envoyé m'a parlé et m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit de Dieu descendre, c'est celui-là qui baptise l'Esprit de feu. Et il a dit, ça, je l'ai vu. Il dit, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui. Si le Seigneur Dieu montre quelque chose, cela se passe. Nous pouvons nous attendre à cela. S'il nous dit quelque chose, cela se passe. Et nous aussi, nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues, mais nous avons suivi la parole de Dieu. Et nous avons reconnu qu'avant le retour de Jésus-Christ, un appel à sortir, une mise à part, une séparation, une préparation de l'Église épouse doit avoir lieu. Car, comme tout à l'heure, nous l'avons déjà mentionné, celles qui furent prêtes entrèrent au repas des noces de au festin des noces de l'agneau et les portes furent fermées. Dans 2 Pierre, le chapitre 3, nous lisons à partir du verset 4. 2 Pierre, chapitre 3, verset 4. 2 Pierre, chapitre 3, verset 4. Et disent, où est la promesse de son avènement? Ici, nous avons la parole avènement, retour. Où est la promesse de son avènement? Il a promis, je vais vous préparer une demeure, une place, et je reviens pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Et les moqueurs disent bien sûr, mais oh, tout, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est écrit dans la prochaine phrase du verset 4. Ensuite, dans le verset 9, nous lisons de 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Cela nous fait penser à Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 47. Tous ceux qui étaient déterminés à la vie éternelle deviennent croyants. Tous ceux qui doivent être appelés à sortir avant que le Seigneur revienne. Ensuite, nous lisons ici, très particulièrement, bien mes frères et sœurs, concernant le jour du Seigneur, à partir du verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour, Mais le prophète Malachie dit, avant que le jour du Seigneur vienne, je vous envoie le prophète Élie, qui rétablira toutes choses dans l'état primitif. Et c'est ainsi que nous voyons les relations entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous voyons comment est-ce que le Seigneur nous a accordé vraiment la grâce de dispenser justement la parole après que par sa grâce de Dieu, elle nous ait été révélée. Seulement encore rapidement, quelques pensées des versets 14 jusqu'au verset 18. Là, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 14, nous lisons. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Par lui, dans la paix. Donc, pas seulement que nous soyons en train d'écouter ce que le Seigneur dit, ce que le Seigneur disait. Quand vous voyez que tout cela s'accomplit, levez vos têtes. Mais ici, pas seulement levez vos têtes en sachant que votre rédemption est proche. Mais ici, il dit en même temps, en attendant ces choses, pas seulement levez la tête, mais appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible. Par lui, en allemand, devant lui, par lui, dans la paix. Par lui, dans la paix. Ça, c'est particulièrement adressé aux vierges sages, à l'épouse de l'agneau qui vraiment veut plaire à l'époux. Tous ceux qui appartiennent à l'église, à l'épouse de l'agneau, à l'église épouse, veulent plaire à l'époux. Elles ne veulent pas qu'il y ait quelque chose qui ait une tâche ou bien qu'il y ait quelque chose qui se tiendrait entre eux et leur époux. Et l'époux. Ensuite, à partir du verset 15, il est écrit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, il faut qu'il y ait des croyants dans ce temps qui existe, qui reconnaissent la patience de notre Seigneur, sachant que sa patience est notre salut. Oh, il n'est pas encore revenu, car je dois d'abord être prêt avant qu'il revienne. Le Seigneur peut revenir. Il pourra seulement revenir quand le dernier sera sauvé, quand le dernier sera entré, qui est déterminé à entrer, qui appartient à l'épouse. C'est à ce moment-là qu'il pourra revenir. Et nous devons reconnaître, estimer grand et croire à la patience de notre Seigneur. Ensuite, au verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Ici, nous avons l'avertissement et cela dans le contexte du retour du Seigneur, en relation avec la patience de notre Seigneur qui est notre salut, en relation avec cet avertissement-là. Au verset 14, dans l'attente de ces choses, est appliqué à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la foi. C'est dans la paix, c'est dans ce contexte de ces choses-là qu'il est parlé au verset 16. De faire attention. Paul a écrit, Pierre mentionne cela ici et il dit que dans les écrits de Paul, il y a des choses difficiles à comprendre, dont les personnes mal affermies tordent les sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons simplement, devant la face de Dieu, dire que pas une unique fois, nous avons tordu le sens d'une écriture. Nous avons fait que prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et c'est ainsi que nous l'avons cru, telle qu'elle est écrite. Et tout le reste, nous devons le laisser à ceux qui aussi interprètent les autres écritures et font avec elles ce qu'ils veulent. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que vraiment il a parlé avec nous et qu'il nous a ouvert l'intelligence pour les Écritures. Mais justement, puisqu'il est écrit ici qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Par exemple, c'est comme ça avec les citations de Frère Branham. Et là aussi, il y a des choses, parfois, qui sont difficiles à comprendre. Et je le dis devant la face de Dieu. Des choses difficiles à comprendre, comme ça pourrait l'être. Mais c'est pour ceux qui ne reviennent pas aux Écritures. C'est difficile pour eux. Mais ceux qui prennent une citation, qui vont à une autre, à une troisième, à une quatrième, sans aller dans les Saintes Écritures, pour eux, ce sera difficile. Et ils seront un jour complètement tordus et ils se retransmettront les choses tordues parce qu'ils en ont eux-mêmes tordu le sens et ils se sont tordus dans ces choses. Celui qui revient aux Écritures n'a aucun problème. Il laisse tout entre les mains de Dieu et aussi, même ce qu'il ne comprend pas encore, il remet tout entre les mains de Dieu. Nous devons revenir aux Écritures, sachant que Dieu, lui, en son temps, fera toutes choses bien. Que ce soit aussi les citations sur les sept sceaux, sur l'Apocalypse. Même si c'est difficile à comprendre, le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et jusqu'à aujourd'hui encore s'accomplit ce qui est écrit. Celui qui est né de Dieu, il écoute la vérité. Il prête l'oreille à la vérité. Il est encore écrit qu'il n'y a aucun mensonge qui a son origine dans la vérité. La vérité a toujours été vérité et sera toujours vérité. Et le mensonge a toujours été depuis le commencement mensonge. Donc, résumons et louons la grâce de Dieu qui, dans la simplicité, nous a été accordée. Nous ne venons pas devant ici avec la poitrine gonflée, avec un vocabulaire là qui est cherché de quelque part. Mais dans la simplicité, nous prêchons la précieuse parole de Dieu qui demeure éternellement et nous montrons aux hommes le chemin qui nous fait revenir à notre Seigneur et à sa parole. Ensuite, au verset 17, dans 2 Pierre, chapitre 3, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, Donc de ne pas prendre les choses à la légère, mais de prendre les choses au sérieux et d'être sur ses gardes, de prendre au sérieux ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole et que nous puissions faire la différence. Où est-ce qu'il y a de l'égarement? Où est-ce qu'il y a des gens qui osent pouvoir prêcher la parole ou bien alors dans notre temps prétendre croire le message et le prêcher? Partout, il y a seulement de l'égarement, des interprétations. Mais là où le Seigneur est présent et vient, reçoit ce qui lui revient de plein droit, là, la parole est placée sur le chandelier et révélée par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Résumons de quoi il s'agit. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et ensuite s'accomplira que celles qui furent prêtes entreront dans le repas des noces de l'agneau et les autres frapperont à une porte fermée parce qu'ils sont venus trop tard. Qu'est-ce que nous avons entendu ces derniers temps? Je voudrais que tous, ceux qui écoutent la parole de Dieu qui demeure éternellement et la reçoivent révélée, et dans le dessein du salut de notre Dieu, se laisse inclure dans le plan de notre Dieu, dans le dessein du salut de notre Dieu, que tout cela seront présents, ils seront présents. Quand le Seigneur reviendra, les trompettes retentiront, et que la voix de l'archange fera entendre, et que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y a quelqu'un qui disait, est-ce que je resterai jusqu'à ce que le Seigneur revienne sur terre? Ça, c'était autrefois aussi la question dans Jean 20. Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que cela ne te concerne pas? Que je sois ici quand il revienne ou bien que je reparte et que je devrais repartir, il y a une chose que je sais. L'enlèvement, nous allons ensemble l'expérimenter. L'enlèvement, nous allons ensemble l'expérimenter. Et si nous prenons au sérieux cette parole d'Hébreu, il y aura encore, ce sera encore un peu de temps, ensuite viendra celui qui a promis de venir, de revenir, il ne tardera pas. Et c'est ainsi que ce serait bien que nous puissions l'expérimenter ensemble, comme maintenant, de loin et de près, de toute l'Europe, de partout, de là des mers, de la Guadeloupe et de tous ces pays, nous nous rassemblons. Et celui qui ne peut pas venir jusqu'ici, il écoute en ligne ce qui, au nom du Seigneur, est prêché ici. Ce qui serait bien, c'est que nous puissions ensemble expérimenter l'enlèvement. Et ça, je le répète encore une fois, Dieu le Seigneur seul sait le jour et l'heure. Mais il y a une chose que je sais, c'est que tous ceux qui maintenant croient Dieu et qui ne doutent pas à ce que la parole de Dieu a promis et qui ont rejeté l'incrédulité, rejeté la désobéissance, et qui mettent leur confiance dans la foi et dans l'obéissance avec Dieu et la parole de Dieu, vivent avec Dieu et sa parole. Ils seront prêts quand le Seigneur reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Pas de doute, pas d'incrédulité, pas de désobéissance, mais la confiance en Dieu. Il fera toutes choses bien. Mets-toi à sa disposition. Le reste, il le fera. Il accorde la repentance. Aucun homme peut venir à lui si ce n'est que le Seigneur l'appelle. Personne ne peut se repentir si ce n'est que l'Esprit de Dieu le convainc du péché, le conduit à la repentance. Et comme le Seigneur a dit dans Jean 16, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice, du jugement, pas le prédicateur. C'est le Saint-Esprit qui convaincra du péché. C'est lui qui doit agir dans le cœur, doit parler à nos cœurs. Il doit dire à celui qui est perdu, tu es perdu, tu es séparé de Dieu. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui lui révèle ça. Je ne peux même pas être conscient de son état. Par la grâce de Dieu. Ne l'oublions pas, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et même si les pécheurs, les moqueurs disent, comme ça a toujours été, c'est ainsi que cela restera, où est la promesse de son avènement? Nous pouvons lire encore une fois que le Seigneur, avec l'accomplissement de sa promesse, ne tarde pas, verset 9, dans le chapitre 3 de Pierre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne peut pas revenir jusqu'à ce que l'épouse soit préparée. Que cette réunion puisse servir aussi à ce que le Seigneur ait parlé avec nous et que nous ayons un oui à sa parole et qu'il n'y ait pas un seul doute que l'incrédulité ne se saisisse pas de nous, mais que la foi nous saisisse, la foi qui a déjà vaincu le monde. 1 Jean, chapitre 5. Notre foi est la victoire qui a vaincu le monde. Le Seigneur a déjà vaincu le monde. Mais notre foi, la foi qui par sa parole est venue à nous, est la victoire qui a vaincu le monde. Jésus est vainqueur. Ô toi, agneau de Dieu, à Golgotha, tu as vaincu glorieusement. Amen, alléluia, le chant un cœur. À lui, le Seigneur fidèle, notre Dieu, soit l'honneur maintenant et dans toute éternité. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons nous lever. Et nous chantons tel que je suis, sans rien de moi. Pas ma force, mais ta force. Chantons encore ce chœur avant que nous chantons encore ce chœur, avant que nous le chantons encore une fois. Sentez-vous libre, celui qui veut venir devant pour consacrer sa vie au Seigneur, vraiment consacrer sa vie, qu'il puisse le faire. Nous allons ensemble prier. Nous voulons encore chanter. Viens Dieu au-dessus, viens Esprit du Seigneur. Gloire soit apportée au Dieu vivant. Bien-aimés frères et sœurs, chacun de nous se pose maintenant la question, Seigneur, où est-ce que ta parole me place? Où est-ce que ta parole me place? Est-ce que j'appartiens à ceux qui ont entendu l'appel, qui croient la parole? Qui nous apportons aujourd'hui chaque doute à notre Seigneur, chaque incrédulité, car Dieu est digne qu'on puisse croire, et la parole de Dieu est digne qu'on puisse croire. Vous tous qui êtes venus devant, acceptez cela. Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, mourut pour nous. Ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha est une réalité divine. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Le sang de la nouvelle alliance a coulé. Nous sommes rachetés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Acceptez la rédemption, acceptez le pardon, la réconciliation, et le Seigneur, tel qu'il est écrit, accomplira toutes choses. Il a dit, je ne rejetterai pas ceux qui viennent à moi. Il détend encore ses bras, il ouvre ses bras aujourd'hui encore et il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Nous allons aussi prier pour tous ceux qui sont dans la salle et qui maintenant aussi sont en ligne. Tant de difficultés, tant de maladies, tant de requêtes, tant de problèmes dans plusieurs familles, comme cela existe maintenant. Cela n'a jamais eu lieu auparavant. Nous allons faire confiance au Seigneur, le prendre au mot, et savoir que Dieu est fidèle. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Il est encore aujourd'hui le même. Il délivre. Il pardonne. Il guérit. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Regardez ici, vous tous qui êtes venus devant. Ceci est le jour que le Seigneur a fait véritablement pour vous, pour chacun de vous. Acceptez cela et remerciez-le pour cela. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous avez entendu sa voix, vous êtes venus, acceptez cela dans la foi et cela sera un don de Dieu pour toujours. Le pardon, la grâce et le salut. Et aussi toutes les autres requêtes dans toute la salle et dans le monde entier. Plusieurs requêtes. Nous apportons tout au Seigneur et nous demandons, s'il vous plaît, dites, et donc détachez-vous de toute incrédulité, de tout doute, de toute désobéissance et demandez à Dieu de vous accorder la foi, la confiance, l'obéissance. Alors tout est possible alors à ceux qui croient. Nous chantons encore ce chœur, crois seulement. Bien-aimé Seigneur, tu es notre Rédempteur. Tu es l'agneau de Dieu. Tu mourus sur la croix à Golgotha. Tu as versé ton sang. Tu nous as complètement rachetés, complètement délivrés, pardonnés par ta grâce. Ôte des cœurs l'incrédulité, le doute, la désobéissance. Ô Seigneur notre Dieu, délivre-nous de tout ça. Accorde la confiance, la foi et l'obéissance. Bénis tous ceux qui sont venus devant. Sauve, délivre, guéris. Je te remercie de tout mon cœur pour cela. Aussi dans toute l'Église. Tu es présent. Je te remercie pour cela. C'est ta promesse et nous la croyons. Tu es présent et tu confirmes ta parole. Tu sauves, tu guéris, tu délivres. Et je te remercie de ce que tu le fais avec tous les jeunes, avec tous ceux qui sont venus devant, avec tous ceux qui ont cru. Tu as accompli ces choses. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de tout notre cœur pour le sang de l'agneau, pour la parole de Dieu et pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Laisse-lui ta face de sur nous et accorde-nous ta paix et ta bénédiction. Bénis avec nous tous ceux qui sont en ligne, particulièrement à Colvetti. Bénis notre frère, bénis l'église, bénis la ville. Ô Seigneur, bénis tous nos frères, qu'ils soient fructueux, féconds et que leur ministère soit béni. Et comme nous l'avons lu, que cela soit ainsi, que tu reçoives ce qui te revient de plein droit avec nous tous, et que ta volonté, par ta grâce, soit faite, puisse être faite. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons reconnaissance aussi pour ce jour, pour ta parole et pour ce que tu as fait. Dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dites Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Louez le Seigneur. Élevez son saint nom. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Oh, le Seigneur a fait de grandes choses parmi nous.
Alléluia.
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 Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur. Gloire et honneur. Sois apporté à notre Dieu. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Que le Seigneur ne tarde pas avec l'accomplissement de ses promesses. Et les derniers sont appelés à sortir et sont préparés pour ce jour glorieux. Nous avons toujours la même demande, bien-aimés frères et sœurs, soyez attentifs à vos enfants entre-temps. Pendant la nuit, ce qui serait mieux, c'est de moins parler. J'étais toujours de cette opinion que si Dieu par sa parole dans la réunion a parlé avec nous, je vous dis qu'après la réunion, on ne peut même pas avoir même le besoin de parler d'autres sujets. Si ce n'est que c'est nécessaire que nous puissions faire comme Marie, prendre cette parole et aller nous coucher et la ramener dans nos cœurs, dans nos mémoires, la méditer. C'est ainsi qu'elle recevra des racines et portera du fruit. Il faut que la parole en nous reçoive des racines. Les parents, soient attentifs à vos parents, à vos enfants et veillez pour qu'il y ait le calme dans les dortoirs. À partir de 23h, et aussi dans les dortoirs, s'il vous plaît, j'appelle cela de foule, les dortoirs. Je vous remercie de ce que vous avez de la patience avec tout, vous êtes satisfait et vous veillez à ce qu'il y ait le calme. Aussi, les choses terrestres doivent se dérouler dans l'ordre. Tant que nous avons une tête, un toit sur notre tête et que nous pouvons avoir un endroit pour reposer notre tête, on veut déjà remercier le Seigneur. Dans le désert avec Israël, c'était différent, n'est-ce pas? Et les deux jours et cette nuit unique, nous allons sûrement pouvoir supporter et remercier même Dieu pour cela. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait de grand en nous. Chantons encore louange et gloire et adoration. Et que tout le peuple dise Amen. Au cas où le chef des chants écoute, qui veut que les deux cantiques là, demain en plus encore les chanter, qui ont été chantés aujourd'hui, ils étaient merveilleux. Tous veulent, et ceux qui ne connaissent pas l'anglais peuvent aussi s'approfondir dans ces choses, trouver la grâce pour grâce. J'ai encore le souhait que le frère Michael et celui qui joue aussi avec lui, il a été souhaité, on m'a demandé de demander que ce cantique-là, je prie, je loue la puissance de l'amour. On m'a demandé que cela soit joué ici et de tout notre cœur avec le frère Michel, avec le violon. Donc, nous avons encore du temps. Le frère Jean-Claude, on pourra, si nous avons du temps, nous pourrons aussi chanter le chœur Maranatha. Nous sommes parmi nous et nous nous réjouissons et pouvons racheter le temps ensemble que le Seigneur nous accorde. Donc tout cela demain matin. Prions encore. Dieu Tout-Puissant, laisse luire ta face, toi-même, sur nous et accorde-nous ta paix et ta bénédiction dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen.
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 Vous soyez remis à la grâce du Seigneur. Saluez-vous l'un l'autre. Chacun, souhaitez-vous les riches bénédictions de Dieu.